Bonjour, bienvenue pour la deuxième saison de Radio Comédie. Comment est la Réunion ?
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
À l'occasion de la 8e édition du Festival Comédie, retrouvez-nous sur LFM, 95.8 sur Saint-Joseph.
Tous les jours à 17h sur LFM. Rediffusion le lendemain à midi.
Bonjour nos chers auditeurs, bienvenue sur la radio du Festival Comédie. Nous sommes en présence de Julie, Marie et moi-même Chloé.
Nous allons vous présenter aujourd'hui un super programme très fantastique, n'est-ce pas Marie ?
Il y aura le portrait de Zéop, le partenaire officiel de Comédie. Une présentation de Monsieur Leboterve par Paul et Zoé. Ensuite, nous verrons l'interview de David, le comédien de la pièce Nazi et le barbier.
Après cela, une rencontre autour du théâtre et de la musique avec deux reportages, des concertos qui a été fait par Manon et Piano Rigoletto qui a été fait par Marie et Mathilde. Plein d'autres surprises encore, notamment l'anecdote avec Patrice de la boutique Solidarité
et notre découverte de la fiction radio. On commence tout de suite avec le portrait de Zéop, le partenaire officiel de Comédie.
Bienvenue sur Radio Comédie.
Donc, bonjour à tous. Nous sommes ici au lycée Pierre Poivre, au studio B1. Ici présent moi-même, Paul Sorès, de l'atelier Sciences Politiques en terminale ES1.
Et Zoé Bianchin, et qui participe à l'atelier Sciences Politiques de terminale L1.
Et Monsieur Leboter, qui est directeur commercial à Zéop. Merci beaucoup de votre présence.
Bonjour Paul, bonjour Zoé, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous également.
Pouvez-vous un peu nous expliquer le lien entre Zéop et donc le festival Comédie ?
Déjà, la première chose, le Comédie cherchait un partenaire, qu'on appelle aussi un sponsor, pour les accompagner dans cette démarche, d'un côté des bénévoles, et puis de l'autre côté, une entreprise privée. On a tout de suite aimé les bénévoles, on a tout de suite aimé le caractère humain du projet, qui était déjà la 7e édition du Comédie. Et on a aimé finalement le même lien qui nous lie tous, et c'est rapprocher finalement le spectacle, la culture aux Réunionnais. Le Comédie, ça amène les spectacles et le théâtre aux Réunionnais. Ben finalement, avec Internet et Zéop, c'est un peu ce qu'on fait aussi. On amène le reste du monde plus proche de chez nous et directement au domicile.
Et donc, est-ce la première fois que Zéop participe à ce genre d'action culturelle ? Ou le Comédie, c'est vraiment ça toute première fois ?
Alors, très clairement, et ça pour nous, c'est aussi une fierté, un honneur. C'est la première fois et la seule fois que Zéop participe à un partenariat avec... un festival culturel comme le Comédie.
Donc vous êtes le sponsor officiel de Comédie qui se déroule avant tout dans le Sud Sauvage. Or, vous n'êtes pas encore présent comme opérateur dans ces trois communes. Est-ce pour annoncer un futur câblage de ces villes ?
Ah, alors ça c'est une question très pertinente. Quand on fait un métier comme en effet aménageur ou opérateur internet, on essaye en effet d'avoir des vues un peu plus longues que les 6 mois qui passent. Et c'est en effet aussi pour cela qu'on est monté à bord du projet Comédie, parce qu'on savait déjà l'an passé que tôt ou tard on allait arriver jusqu'à Saint-Joseph. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que 2016, nous serons à Saint-Joseph. La fibre optique de Zéop sera présente à Saint-Joseph.
Peu de gens savent finalement que vous êtes aménageur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement ce rôle, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Nous délivrons en effet des abonnements Internet. Mais derrière cet abonnement Internet se cache un autre métier de Zéop, qui est en effet un métier d'aménageur, comme vous dites. C'est en fait un métier de génie civil et technologique. C'est-à-dire que nous apportons notre fibre optique jusqu'au domicile de chaque Réunionnais. Donc nous avons un métier extrêmement technologique qui consiste à faire des gros débits. Actuellement, on est à 100 Mbps, on va monter bientôt à 200 Mbps. Pour la Réunion, c'est déjà très bien. On ira encore plus loin, évidemment. Mais en plus, on a aussi un métier de génie civil, où on fait des trous dans les routes, on monte au poteau et on apporte en effet la fibre mètre après mètre sur l'ensemble du territoire de la Réunion. C'est ce qu'on appelle en effet un métier d'aménageur, et pas seulement de fournisseurs d'accès Internet. On est opérateur Internet, on est aménageur en effet de fibre optique, mais avant toute chose, on est un opérateur exclusivement réunionnais. Et ça, pour nous, c'est important. Et on se doit, en effet, d'aménager toute la Réunion. Il n'est pas concevable pour nous de uniquement fibrer ou câbler, comme vous le dites, le chef-lieu, Saint-Denis, ou des grosses villes comme Saint-Paul ou autres. Donc on va arriver sur Saint-Jo en 2016. On a déjà commencé les travaux en fait d'aménagement. Les premiers clients seront branchés en 2016, mais surtout, on ira jusqu'à dans les hauts de Saint-Joseph. Et nous ne ferons pas que le centre-ville. On va monter également dans les hauts et dans les écarts de Saint-Jo. Donc l'objectif, c'est bien de sortir, je dirais, du fait noir numérique, la Réunion, et surtout aussi d'éliminer la fracture qui peut exister entre les nouvelles technologies des centres-villes et les nouvelles technologies qu'on doit trouver également dans les villes un peu plus éloignées comme Saint-Jo ou d'autres.
Et concrètement, en utilisateur, ça représente quoi ?
Alors concrètement, puisque bien souvent quand on parle d'Internet, on parle de débit, déjà on est à 100 ou 200 Mbps. La technologie qu'on déploie permet d'aller jusqu'à 400 Mbps. Il y a un but symbolique que nous allons chercher, qui n'est pas un but définitif, mais qui est un but intermédiaire, qui est le gigabit seconde. L'intérêt d'avoir des débits aussi importants que cela dans tous les coins de la Réunion, c'est d'avoir des usages en simultané. Donc non seulement vous pourrez télécharger un film, vous pourrez également bosser, pour vous qui serez étudiant, par exemple, vos cours à domicile. Et quand je dis travailler vos cours, c'est pas seulement télécharger des cours papier, c'est également participer à des cours dynamiques. Vous connaissez le terme MOOC. Hein, voilà. Donc, le terme MOOC permet de faire du streaming en direct de cours avec le monde entier, avec les meilleures universités, qu'elles soient françaises ou internationales. Et ça, pourquoi pas, depuis Saint-Joseph. Et cette technologie-là, elle permet ça. Ça sert évidemment aux loisirs aussi, on ne va pas se le cacher, aux jeux en ligne, à surfer sur Internet. Mais bien plus que ça, c'est pour ça que je parlais de fracture numérique. Je pense qu'on peut inventer une nouvelle vie à La Réunion, d'où le terme de Smart Island, ou de chez soi, on est à la fois dans son canapé, on est à la fois avec les copains, on est à la fois avec la famille à l'extérieur, et aussi quelque part dans un bureau, et pourquoi pas en train de monter son entreprise. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important. Et c'est aussi pour cela que le lien avec le Comedy est évident. C'est qu'encore une fois, on ne parle pas de technologie, on ne parle pas business. Là, on parle de l'humain, on parle du Réunionnais. Et ça, c'est bien le lien social qui nous relie tous pour ce projet.
Vous parlez du Comedy, justement. Est-ce que vous comptez, durant le festival, aller voir une pièce?
Alors, je vais être aussi très clair avec vous. Par jour de festival au Comedy, j'en vois 2 à 3 par jour. Alors, donc j'organise mon agenda pour être présent à toutes les pièces. Je ne conçois pas d'être un sponsor sur un festival de bénévoles en plus et populaire comme le Comédie sans être présent constamment aux pièces. Donc je suis présent bien souvent à la séance de 15h, si je peux, également à celle d'après, et encore à celle d'après s'il y en a une. Et puis bien souvent également, les bénévoles du Comédie, les artistes, me retrouvent au réchauffé le soir autour de l'apéro et de la blanquette.
Qu'est-ce que ça vous fait de participer à Radio Comédie?
C'est évidemment un plaisir et un honneur. On est un ménageur, on est une entreprise technologique, mais avant tout aussi, on participe au développement local. J'entends par là, et vous allez voir le lien avec la radio, j'entends par là qu'on donne des cours, par exemple, à l'UT de Saint-Pierre, pour parler du Sud, alors, sur la partie réseau, sur la partie technologique, mais bien au-delà de ça également, on essaie d'être présent pour propulser de nouveaux métiers. Hein, on est fédérateur de nouveaux métiers. Dans notre spécialité qui est la technologie Internet. Et du coup, le fait de participer à votre radio dans l'enceinte même d'un lycée, peut-être que demain, ce sont des gens comme vous qui viendront rejoindre une entreprise de pointe, parce que je pense qu'on l'est, voilà, qu'est Zéop. Et ça me fait toujours plaisir de participer à une radio libre qui est la vôtre. Et puis, ben, j'espère de dénicher également, pourquoi pas demain, de nouveaux talents pour nous rejoindre.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur Le Botter, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'était Paul Sorès et Zoé Bianchin en direct du studio B1 sur Radio Comédie.
Au revoir et bonne journée à tous.
Au revoir.
Bonjour à toutes, ici Wilson, bienvenue sur Radio Comédie saison 2. Comment elle est la Réunion? À l'occasion de la 8e édition du Festival Comédie, retrouvez-nous sur LFM Radio 95.8 FM sur Saint-Joseph. Le Comédie Festival qui réveille the tout du 26 avril au 6 mai. Big up!
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Comédie du studio D4 du lycée Pierre Poivre avec Océane.
Bonjour.
Léo.
Bonjour.
Et moi-même Stéphane.
Et nous recevons aujourd'hui le comédien David, venu des Ailes de Clarence.
Bonjour.
Alors David, peux-tu nous parler un peu de ta compagnie, les Ailes de Clarence?
Alors les Ailes de Clarence, c'est une compagnie que j'ai créée en 1997, donc il y a un petit moment. J'ai créé à l'époque un spectacle que j'ai mis en scène, qui était un spectacle d'une auteure dramatique qui s'appelle Catherine Anne. Et puis après, la compagnie s'est mise un petit peu en sommeil, parce que j'ai continué plus comme comédien que comme metteur en scène. Et les Ailes de Clarence, je les ai réactivées il y a 3 ans, à l'occasion du spectacle Nazi et le Barbier, que je n'ai pas mis en scène. C'est mis en scène par Tatiana Werner, mais que je joue seul en scène depuis 2 ans. Un peu plus de 2 ans.
D'accord, merci. Et donc, que pouvez-vous nous dire à propos de votre spectacle, donc Le Nazi et le Barbier?
Le Nazi et le Barbier, c'est une adaptation. D'abord, au départ, c'est un roman. C'est un roman d'un auteur allemand qui s'appelle Edgar Hilsenrath. Et c'est un roman que j'ai adapté pour en faire un seul en scène. Donc, je suis seul sur scène et j'interprète tous les personnages. Et c'est un roman qui... comme l'indique son titre, qui parle du nazisme, qui parle de la Shoah, mais qui parle aussi de la création de l'État d'Israël, et qui parle plus généralement de comment on devient un monstre, comment une personne humaine devient inhumaine en quelque sorte, et c'est donc ça, un thème plus général qui va au-delà de l'histoire même de la Seconde Guerre mondiale.
Mais pourquoi avoir choisi cette pièce, enfin de mettre en scène ce texte précisément?
Alors j'ai choisi ce texte parce que d'abord je l'ai lu comme un simple lecteur, j'ai découvert le roman et j'ai beaucoup aimé le roman vraiment comme simple lecteur, et puis moi c'est un sujet qui m'est proche parce que, enfin, l'histoire du XXe siècle en général, et puis la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. Parce que ça m'est proche par mes origines familiales, sauf que j'avais pas spécialement envie d'en parler sur scène parce que j'avais d'autres sujets à ce moment-là. Et puis j'ai lu le livre et j'ai découvert un auteur qui parlait notamment de la Shoah d'une façon très originale, très iconoclaste, vraiment pas comme tout le monde, qui prenait un sujet que lui connaît très bien parce que lui, il est juif, il vit toujours, et il a vécu enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est un sujet qu'il connaît vraiment bien, mais il en parle avec pas mal de provocation, pas mal d'humour, beaucoup de sensibilité aussi, et c'est un mélange qui me plaisait beaucoup, et qui faisait que moi j'avais envie de le jouer sur scène. Je me suis dit que finalement, on n'abordait pas ce sujet-là souvent de cette façon-là, et moi, c'était l'aspect qui m'intéressait le plus. Et puis, comme comédien, ça me permet d'interpréter plein de personnages. Et c'est très agréable d'interpréter tous ces personnages. Je ne sais plus, quelqu'un a compté pour moi. Moi, je ne sais pas exactement combien il y a de personnages, mais il y en a une vingtaine, je crois, au total. Alors, la plupart, des personnages principaux, il y en a trois ou quatre, mais il y a plein de petits personnages qui transitent comme ça dans la pièce. Et on m'a demandé souvent pourquoi je jouais ça tout seul, parce qu'on aurait pu monter ça à 5, à 10... Et bien justement, peut-être pour le plaisir de jouer tous ces personnages, c'est un peu égoïste. Mais voilà, j'avais cette envie d'être seul sur scène, d'essayer aussi. C'était la première fois que je le faisais et c'est plutôt très très agréable.
Cher Itzik, tu ne sais pas qui t'a abattu à l'époque, au camp de la Hauptwald, parce que tu ne l'as pas vu. Parce qu'il t'a pris par surprise, parce qu'il ne voulait pas que tu vois, et parce qu'il se tenait dans ton dos, à deux pas derrière toi. Il a aussi abattu ton père, Chaim Finkelstein, et ta mère, Sarah Finkelstein.
Quand je dis que c'est un auteur iconoclaste, c'est-à-dire que c'est un auteur qui ne considère pas le sujet comme sacré, et que c'est un sujet sur lequel il peut... Il peut construire une histoire un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre sur ce sujet. C'est un spectacle dans lequel il y a de l'humour, même si ce n'est pas la tonalité principale, ce n'est pas une comédie, mais il y a de l'humour, il y a des choses drôles, il y a des choses très crues, il y a des choses violentes, et c'est peut-être une façon de parler de ce sujet-là qui est un petit peu différente. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien. Ça veut dire que celle-ci, moi, me touche plus, et c'est cette façon-là de désacraliser un petit peu le sujet que j'ai trouvé intéressante et que j'ai eu envie de jouer, du coup.
Et pourquoi alors ça vous touche plus ?
Alors, pourquoi cette façon-là me touche plus ? Parce que je crois que plus on s'éloigne d'un événement historique, plus ça devient dans les esprits un événement historique. Ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui ont vécu les années 20, les années 30, les années 40, c'est pas un événement historique, c'est vraiment c'est dans leur chair, ce sont des choses qu'ils ont vécues. Et puis plus on s'éloigne, moi je suis de deux générations après la Deuxième Guerre mondiale, vous trois ou quatre, bon, ça devient, et c'est normal, ça devient un événement historique, c'est-à-dire ça devient une chose qu'on apprend dans les manuels d'histoire. Mais je pensais que peut-être en parlant de cette façon-là, et c'est peut-être ce qu'a pensé l'auteur également, mais ça je ne veux pas parler à sa place, mais il me semble qu'en parlant de cette façon-là qui est drôle, qui est vivante, c'est surtout très vivant, et ça en fait un sujet qui est toujours actuel, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une chose qu'on, qu'on lit dans des manuels et on se dit « Ah, ben, c'est arrivé il y a très longtemps ». Ce sont des humains, des êtres humains qu'on met en avant, et les êtres humains, ben, ils sont autant du 15e siècle que du 20e, que du 21e. Et donc ça, je trouve ça intéressant.
David, selon vous, à quoi sert le théâtre ?
Alors, est-ce qu'on a 2 heures devant nous ? Parce que c'est un peu long. Je ne sais pas bien. En fait, vraiment, je vais essayer de répondre à cette question, mais je la trouve compliquée. Moi, en tant que spectateur, le théâtre, ça me nourrit beaucoup. Je trouve que ça éveille sur des milliers de choses qui vont au-delà de notre simple quotidien, qui nous sortent aussi du quotidien, et puis qui font des choses qui font réfléchir. En tant qu'acteur, et puis que personne qui monte des spectacles, j'ai la possibilité de parler de sujets qui me touchent, de sujets qui me sont très intimes. Et je crois que c'est une façon pour moi d'exprimer des choses, des sentiments, des idées que peut-être je n'ai pas les moyens d'exprimer autrement dans la vie. Et le théâtre, ça me permet de le faire sur scène.
Alors merci David, de la compagnie Les Ailes de Clarence, pour nous avoir présenté votre pièce Le Nazi et le Barbier.
Alors nous étions avec Océane, Léo, Stéphane et donc David, le comédien.
Le studio D4 du lycée Pierre Poivre sur la radio Comédie.
Merci à tous.
Bienvenue sur Radio Comédie.
Bonjour, c'est Julie, lycéenne à Pierre Poivre. Et en mission pour Radio Comédie, j'ai pu assister à la pièce de théâtre Le Nazi et le Barbier. C'est un spectacle de la compagnie Aile de la Rance, qui est interprété par David Nathanson et qui a été écrit d'après le roman d'Edgar Ilsenrath. Sur scène, on retrouve un personnage, Max Schulz, qui nous raconte son histoire depuis son enfance, ses premiers jours, jusqu'à sa mort et même au-delà. Et ce personnage est une sorte d'anti-héros. Il est à la fois ignoble et attachant. Ignoble parce qu'il est responsable du pire. On sait d'avance qu'il sera un génocidaire plus tard. Et donc, il a un côté un peu inhumain. Mais il est aussi attachant parce qu'il se perd, en fait, avec lui-même. Il en devient pitoyable. La question de l'identité est omniprésente puisque le personnage, Max Schulz, après avoir tué son ami d'enfance, Itzik Finkelstein, prend l'identité de celui-ci et se confond en lui. Il devient alors juif et continue son existence de cette façon. On voit toute sa vie, de son enfance à sa mort, avant la guerre, après la guerre, et elle n'est pas spécialement centrée sur la guerre elle-même, c'est qu'un court instant de la pièce. C'est un spectacle qui est plein de cynisme et d'ironie. On parle quand même d'un nazi qui devient engagé et qui milite activement pour la cause juive. C'est un personnage qui est très intelligent. On ne sait pas trop s'il est fou, psychopathe ou schizophrène. La pièce est très drôle, même si très tragique, puisqu'elle raconte forcément une histoire qui est très difficile. Mais c'est un spectacle à voir, très intéressant, qui a une portée assez philosophique et psychologique. Très riche, historiquement parlant.
Tu le connais, lui, l'assassin ? Ton assassin, et l'assassin de ton père, Chaim Finkelstein, et l'assassin de ta mère, Sarah Finkelstein. Tu veux que je te révèle le secret, hein ?
Et vous, que vous avez pensé de la représentation de ce soir ?
Je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé le spectacle.
Je veux dire, un monologue, ça a le risque que ce soit ennuyé aussi. Vous vous êtes ennuyé ou pas ?
Du tout. Moi, je ne me suis pas ennuyé.
Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la représentation de ce soir ?
Ouais, ça m'a rappelé mon film préféré.
Lequel ?
La liste de Schindler.
Et notre acteur, il est où ?
Dedans.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous sentiez bien pour la représentation de ce soir ?
Ouais, c'était la première tout public, donc c'était bien. On avait joué déjà cet après-midi devant les lycéens, enfin certains lycéens. Donc voilà, c'est 2 dans la journée, c'est physique, mais c'était bien. Ouais. Ouais, ouais.
Donc quand on écrit un monologue, on prend le risque que ce soit ennuyeux pour le public. Et là, vous avez été dynamique, ça a été dur pour la mise en scène de faire en sorte que ce soit pas trop ennuyeux.
Alors moi, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis pas vraiment posé la question de savoir si ça allait être ennuyeux. Je me suis dit, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Après, moi, j'ai pas fait la mise en scène. C'est une metteuse en scène qui s'appelle Tatiana Werner, avec qui j'ai travaillé. Et je crois qu'elle ne s'est pas tellement posé la question non plus de savoir si ça allait être ennuyeux. En revanche, elle s'est évidemment posé plein de questions parce que c'est le propre de la mise en scène. Et on se les est posées ensemble. Et on a essayé de donner du rythme, effectivement. On a adapté, c'est un roman au départ. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons écrit, on a adapté le roman. Et donc, on a choisi les passages qui nous semblaient les plus intéressants. Et puis, on essaye de créer un rythme dans le spectacle qui fait qu'effectivement, à la fin, au bout du compte, on espère que le public ne s'ennuie pas. Mais voilà, on essaye de raconter l'histoire et dans ce qu'elle a de plus intéressant.
Ce soir, c'était une petite pièce. À la base, c'est une salle du lycée. Ça ne vous a pas dérangé de jouer dans un espace aussi clos ?
Alors en fait, ça me dérange pas du tout. Quel que soit l'espace, à partir du moment où l'espace est bien aménagé, qu'on a des lumières, qu'on puisse faire un beau travail sur les lumières, sur le son. Après, le théâtre, ça a l'avantage de pouvoir être joué partout. Donc non, moi ça me dérange pas du tout. Là, j'ai l'impression d'être dans un théâtre, même si au départ c'est une salle de classe. Mais
c'est vrai qu'elle était bien aménagée. Ça fait longtemps que vous exercez le métier ?
Ça fait une vingtaine d'années. Ouais.
Ah oui, quand même.
Ouais. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre il y a 20 ans. Et donc, ça fait 15 ans que je vis de ce métier-là. Ouais.
Vous auriez un petit mot pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient devenir acteurs, enfin comédiens ?
Eh bien, qu'ils continuent si c'est ce qu'ils ont envie de faire. Je crois que la seule bonne raison d'être comédien, c'est d'en avoir très, très envie. Donc, il faut avoir cette foi en l'avenir et cette volonté de le faire. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si on en a très envie.
Bienvenue sur Radio Comédie.
Bonjour à toutes, ici Wilson. Bienvenue sur Radio Comédie saison 2. Comment elle est la Réunion ? À l'occasion de la 8e édition du Festival Comédie, on retrouve à nous sur LFM Radio 95.8 FM sur Saint-Joseph. Le Comédie Festival qui réveille the toutes. Du 26 avril au 6 mai, big up!
Salut, c'est Manon pour Radio Comédie. Je suis à Vincent Do et je viens de voir le spectacle Des Concertos. Et donc là, on va rencontrer les comédiens qui sont deux grands malades.
C'est du rêve tout le temps. Super jeu entre les deux, ils nous font mourir de rire. Je pense qu'ils ont vraiment un travail de clown. Les deux clowns ensemble, ils sont...
Ils emmènent tout le monde avec eux sur leur délire de faire du bruit, de la musique avec son corps, avec tout ce qui leur tombe sous la main. Et c'est vraiment, vraiment drôle et techniquement, ça doit être super fort aussi.
Bah, c'est deux monsieur.
Oui, mais c'est bien qui est plus bête que l'autre.
Il disait qu'il pouvait faire de la musique avec tout.
Ils sont un peu dingues.
Donc on est la compagnie Duo Gamma avec le spectacle Des Concertos. Et la compagnie, c'est moi, Maxime D'Autremont et
Gaël Michaud.
Quel âge vous avez, d'où vous venez ?
Alors, on vient de la Belgique, c'est ça, hein ?
On a tous les deux 30 ans.
Voilà.
Est-ce que, si jamais vous pouvez décrire votre spectacle pour encourager les gens à venir, ce serait quoi ? Vous diriez quoi ?
C'est deux types. deux andouilles, quand même.
Ouais, ouais.
Un petit peu.
Un petit peu.
Et ils veulent partager avec les gens leur passion, qui est la musique. Et comme ils veulent faire ça d'une façon surprenante et originale, alors ils ont eu plein de chouettes idées. Donc ils ont eu l'idée de faire de la musique avec des objets et qui ne sont pas des instruments de musique.
Les idées loufoques que vous mettez dans vos spectacles après ?
Eh ben, feu. Ça nous vient un peu... Ça dépend de différentes choses.
Ça doit être naturel, hein, je pense.
Vous avez un don pour la connerie, en fait. C'est votre trait.
La connerie, oui, ça va, en général. Non, mais en fait, on cherche à trouver quelque chose qui soit original, qui nous plaise.
Donc c'est drôle parce que vous êtes là, puis vous faites les idiots et puis vous parlez pas. Est-ce que c'est parti pris de pas parler, de faire un truc muet ?
Ben nous, on vient du cirque, à la base, on vient pas du théâtre. Donc déjà, on n'est pas une approche au texte, c'est pas notre matière principale. C'est plutôt le corps et le mouvement. Et du coup, par ça, on vient plus facilement au jeu physique et au jeu sans parole que au jeu au texte. Et puis ça nous permet aussi de voyager et d'aller dans des pays... où on ne parle
où
pas
on
français.
A pas
oui.
de parler.
On n'a pas besoin de parler pour se faire comprendre. Quand on crée un numéro, on part de la performance, on part de l'idée du morceau ou de la performance musicale qu'on va faire. D'abord, on trouve ça, on dit on va faire ça, on va jouer la musique avec des bières. Alors on trouve une façon de le faire, on trouve quel morceau jouer. Donc Jean-Sébastien Bach, c'est chouette de pouvoir jouer du Bach dans un bac. Une fois qu'on a trouvé la performance musicale, après on commence à regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme chose drôle avec ça. Comment on arrive là par le rire et par la dérision.
Vous êtes belge, vous faites des allusions à la Belgique.
Comme oui, on est belge, on vient de Belgique, donc c'est assez logique d'utiliser par exemple un bac de bière belge.
On s'est dit, on l'a pas encore fait, mais oui. On s'est dit que si on a la possibilité, si on va dans un pays étranger, d'essayer de trouver des bières locales qui puissent, ouais. Avec lesquelles on puisse faire les mêmes choses.
Comment vous les accordez, les verres et les bières et les tubes?
On a cherché chaque verre pour qu'il fasse juste la bonne note. Et les bières, on accorde avec une seringue et de l'eau. Donc on prend une guitare, on accorde la guitare, et en fonction des notes de la guitare, on accorde le bac à l'oreille.
Est-ce que vous avez goûté de la bière de La Réunion? Est-ce qu'elle est meilleure ici?
Elle est très bonne. On l'a goûté, c'est chouette, mais on voulait peut-être l'utiliser dans le spectacle, mais elle n'a pas la même forme que les bières belges, donc on ne pouvait pas l'utiliser dans le spectacle.
À quoi ça sert les spectacles?
Ben nous, en fait, on fait des spectacles pour se faire plaisir et s'amuser, et faire plaisir aux gens qui viennent les voir, et pour qu'ils s'amusent aussi. Et donc on essaie de s'amuser nous entre nous et de s'amuser tous ensemble avec les gens.
C'est exactement
ça. C'est notre définition à nous, parce que c'est ça qu'on fait. Mmh. Et c'est ça qui nous fait donne envie de le faire.
Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné du temps. Merci et bonne fin de festival.
Merci à vous.
Merci à vous et merci à Comedy.
À l'occasion de la 8e édition du Festival Comédie, retrouvez-nous sur LFM.
Bonjour, bienvenue sur Radio Comédie saison 2. Comment il est? À l'affiche cette année,
Piano Rigoletto. Piano Rigoletto présenté par Mathilde et moi-même, Marie.
Il est vraiment super amusant et ça m'a beaucoup plu.
Par rapport au piano, évidemment, et comme je suis musicien, ça m'a attiré beaucoup. Mais... et en plus, avec un comédien en plus, c'est chouette. Hein.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Eh ben, je m'appelle Alain Bernard, hein, un peu comme le nageur là, que tout le monde connaît. Hein. Et puis je suis musicien, comédien, et donc j'ai présenté au Festival Comédie ce spectacle qui s'appelle Piano Rigoletto.
La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Platon. Sans la musique, la vie serait une erreur. Nietzsche. De tout temps, l'homme a fait de la musique.
Combien de temps avez-vous pris pour préparer ce spectacle?
Bah, ce spectacle, il existe depuis maintenant 3 ans. J'avais écrit avec Pascal Légitimus.
Comment est-ce que vous connaissez Pascal Légitimus, par exemple?
Moi, j'étais très longtemps le pianiste de Smaïn. On a vécu ensemble de très beaux moments. Donc, tout le monde se connaît un peu là-dedans, on se croise. Et on est devenu très amis avec Pascal Légitimus, mais ça fait déjà il y a 20 ans, 25 ans. Hein.
Bah, comment s'est passée justement cette collaboration avec Pascal Légitimus?
J'avais des sketchs. Qu'on a retravaillé ensemble, et, voilà, on a fait des relectures et puis on a réécrit par-dessus, tout naturellement.
Et d'où vous est venue cette idée de faire un spectacle comme ça, qui mélange théâtre et musique?
Moi, j'adore la musique, c'est ma première passion. Et puis j'ai toujours baigné dans l'univers des humoristes. Et donc j'aimais aussi faire des sketchs. Et puis finalement, le mieux pour moi, c'était de faire un peu les deux, justement, d'essayer de marier la musique et puis la fantaisie, les bêtises, les conneries.
Alors, plantons le décor. Hein. Pour le coup, nous sommes dans un donjon. Et au milieu de la soirée, voici qu'arrivent les troubadours pour donner un petit peu les nouvelles du royaume. Mmh. travail du Rochelatour. Mais pour Floby, ce n'est pas du gâteau. La crise, la dette, le chômage, les impôts. Il y a du flot, la seconde, le sarco sur le dos.
Je disais tout à l'heure, moi j'adore la musique, mais j'adore faire le con aussi. Donc voilà, d'où le titre Piano Rigoletto, qui résume effectivement bien ces deux activités.
Ça fait combien de temps que vous faites du piano ?
Eh bien, du piano, j'en joue. Je devais tapoter quand j'avais 6-7 ans. Si je vous dis combien de temps ça fait, vous saurez mon âge. Et puis la chance qu'on a maintenant, une fois qu'on sait faire du clavier, du piano, c'est qu'on peut avoir des pianos électriques, des synthétiseurs.
Avec votre casier et un simple bonnet, vous êtes dans la cordillère des Andes. Des paysans, non ?
Comment s'est passé le travail de cette pièce, enfin, la mise en scène, tout ça, il a fallu beaucoup de temps avant d'aboutir à un travail.
Il faut du temps, et puis c'est ce type de spectacle aussi se nourrit des différentes représentations. Donc on retravaille tout le temps, finalement c'est jamais fini. Comme on dit, la réussite est une suite d'erreurs, on fait des bêtises, on fait des erreurs, et puis un jour, ça marche. Mais il faut s'accrocher tout le temps, quoi. C'est des boulots, c'est jamais gagné, je trouve. Il faut toujours se remettre en cause. Alors, c'est des périodes de doute, c'est des périodes où on remet tout sur le tapis, et puis il faut repartir à chaque fois. C'est pas si facile que ça, finalement. On a l'air de rigoler tout le temps, mais c'est un travail de fond.
Bon, évidemment, là, j'exagère. Mais enfin, il peut arriver dans un piano bar qu'un morceau, vous savez comment il commence, vous ne savez pas toujours comment il va se terminer.
Spectacle improvisé, par exemple la scène où vous partez d'une musique, vous enchaînez plein de musiques pour revenir à la même. C'est improvisé ou c'est prévu ?
Ben justement non, c'est même une des parties qui m'a demandé le plus de travail. Fallait trouver les morceaux qui puissent s'enchaîner avec la fin d'un morceau qui rappelle la mélodie d'un autre morceau. Donc fallait les trouver. Et puis fallait que ce soit ensemble, ça fasse une progression, que ça soit qu'il y ait des morceaux longs, des morceaux plus rapides, etc. Donc ça, finalement, c'était un gros boulot. Mais pour répondre à la question plus généralement, dans le spectacle, il n'y a finalement rien d'improvisé. Si ça peut se trouver d'improviser, si la situation vraiment se présente. Mais pour le coup, c'est très écrit.
Alors, le piano bar, c'est une autre ambiance, une autre atmosphère. Lumière tamisée, fauteuil en cuir. Palace international, bateau de croisière, la classe. Oh, bonsoir, commandant. Oh, ça tangue un peu. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va.
Et à vos débuts, vous avez aussi votre période de salle des fêtes et piano bar ?
Le piano bar, oui. Mais je rentrais pas comme ça à 5h du matin, comme vous avez pu le voir.
À 2h du mat, et là, ça devient grave. Max ! C'est marée basse, Max.
J'ai notamment beaucoup travaillé dans des bars et puis aussi au Festival de Cannes où je faisais. J'animais des soirées, enfin les nuits d'ailleurs, pendant le Festival du cinéma. Et là, c'est du piano bar, on joue de minuit à 5h du matin. C'est là qu'on apprend son piano aussi, hein, c'est sur le terrain. Mais c'est très marrant à faire. Les salles des fêtes, j'en ai fait un petit peu. Oui, j'ai fait un peu baloche, mais pas plus que ça.
Allez, on y va. Ambiance baloche. Bonsoir à tous, ici Jackie et sa malformation. Attention, émotion, frisson pour toutes les générations.
Mais je parle aussi des musiques de films, j'en ai fait quelques-unes.
On va se faire un film d'or. Nancy. Nancy.
Musique de télé aussi un petit peu, mais...
Le policier.
Et puis finalement, comme moi, j'ai plus grandi dans des réseaux de comédiens, finalement, et d'humoristes, bah voilà, je suis allié la musique et l'humour, voilà, c'est plutôt mon créneau, quoi. Parce que c'est un grand plaisir, la musique. Quoi qu'il arrive, c'est bien d'en faire, et puis ça aide toute la vie. Ça, c'est une façon de se défouler, de d'exprimer des sentiments aussi, de toute façon. Quand on est triste, on se fout au piano, on joue un truc bien dégoulinant, mais ça fait du bien, c'est d'expression. Voilà, c'est un moyen de sortir un peu ce qu'on a à l'intérieur. C'est à faire, faites de la musique.
Radio Comédie.
Eh bien justement Marie, toi qui as participé à ce spectacle, peux-tu nous en parler s'il te plaît?
Oui bien sûr, alors j'ai assisté à ce spectacle qui s'est déroulé le samedi 2 mai au soir au Fangourin de Petite-Île, donc je peux vous en parler. Pour Alain Bernard, comme le nageur précise-t-il, il suffit d'un piano vert, un casio et un micro pour nous proposer un cours de musique loufoque et pas très académique. Aujourd'hui au programme, un cours d'histoire de la musique, de la préhistoire à David Guetta en passant par Beethoven, le blues et la musique des salles des fêtes. Alain Bernard explore et nous enseigne en bon professeur tous les genres, nous démontrant en passage sa maîtrise du clavier qu'il pratique depuis près de 40 ans. Mais dans Piano Rigoletto, il y a aussi Rigoletto. Le côté loufoque et décalé de la pièce en fait tout son charme. Dès l'introduction et avant même l'entrée en scène de l'artiste, le public se tord déjà de rire. Mais tout le long du spectacle, ce ne sont qu'éclats de rire des petits et grands à grands coups de jeux de mots légers qui retentissent. Les références culturelles sont nombreuses et variées. Musique classique, chanteurs modernes, politiques même. Les initiés et amateurs apprécieront certainement mieux que les grands débutants. Piano Rigoletto, c'est une pièce de théâtre musical qui fera rire à tous les niveaux, petits et grands, explorateurs du genre ou aventuriers confirmés.
Alors tout à fait Marie, je suis complètement d'accord avec toi parce que moi aussi j'étais dans la salle et je me suis étouffée de rire. Franchement, là il faut le dire, clairement c'était une bonne partie de rigolade, voilà, c'était vraiment un moment hyper agréable, être face à ce professeur qui lui n'a pas envie d'être professeur. Donc, moi, je dis un grand merci à ce très grand artiste et merci à toi pour ta chronique. Elle était vraiment bien et donc je voulais un peu réagir dessus parce que j'ai trouvé chouette et je voulais aussi réagir sur la pièce parce qu'elle m'a vraiment beaucoup plu et j'ai passé un agréable moment. Merci.
Bonjour, bienvenue pour la deuxième saison de Radio Comédie. Comment est la Réunion ?
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
À l'occasion de la 8e édition du Festival Comédie, retrouvez-nous sur LFM, 95.8 sur Saint-Joseph.
Tous les jours à 17h sur LFM. Rediffusion le lendemain.
Tout de suite, une petite anecdote avec Patrice de l'association Emmaüs.
Ah oui, petite dédicace pour Antoine. Hein. En rencontrant Antoine, on est parti, parce qu'il s'intéressait à la culture, au maloya, qu'est-ce que c'était. Et donc du coup, moi, je suis musicien et donc j'aime beaucoup le maloya. Et avec Antoine, on s'est retrouvé à la maison autour d'une petite bière bien glacée, il faisait chaud. Et je l'ai emmené ensuite, le soir, en répétition, un peu dans les hauts, on entendait un petit bout de cayambe de fond. On entendait un petit chien qui aboyait au loin. On entendait des petits grillons dans la nuit. Et il est venu avec nous pour enregistrer pour l'émission France Inter. Le groupe Couleur Maloya.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Belge si j'y suis, avec Antoine Chao Maloya, là-bas.
Alors Patrice, on est où là ?
On est sur le chemin pour arriver à Piton-Goyave, donc un petit peu dans les hauts, c'est un petit peu frais. Donc voilà, nous rentrons dans la période de l'hiver aussi, en même temps, c'est un peu normal. Quand barre du jour finalée, ça veut dire c'est quand la barre du jour est partie. La barre du jour, c'est l'horizon. Et quand ça descend là, t'as l'impression qu'il n'y a plus de barre. Et donc la barre du jour finalée. Et donc la nuit tombe.
C'est l'hiver là qui commence.
Ah oui, là c'est l'hiver qui commence. Hein. Mais bon, on reste quand même en savate doigt de pied. Mais il faut quand même protéger la tête. On met un petit bonnet, histoire de dire qu'on n'attrape pas la crève après. Parce qu'après, il faut chanter. Hein. Ouais, donc là c'est le petit cayambe qui sonne un petit peu, qui accompagne à nous ce chemin. À chaque mouvement, le cayambe, en plus c'est un instrument très traditionnel, hein, c'est avec Fiotkan. Donc là nous arrivons chez Banna.
Alors ben ça c'est la famille le roi Kaf. Donc groupe Kule Maloya. Donc on va aller ensemble découvrir un petit peu.
Et c'est les petits enfants du roi Kaf, c'est ça?
C'est voilà, les petits enfants et les enfants. Entre autres. La fille Marie-Pierre notamment.
Alors ben moi c'est Marie-Pierre, je suis la fille du roi Kaf. Je suis présidente de notre association, une nouvelle association qui est née sur Petite Île fin 2010. C'est l'association Kuler Maloya LRK. Pourquoi LRK? C'est en mémoire du roi Kaf, en fait. Le roi Kaf, LRK.
Et vous chantiez avec votre père?
Oui. Moi, je l'accompagnais. J'étais choriste et puis je chantais aussi devant. Je chantais des chansons que lui-même, il composait, en fait. Voilà.
À toutes et à tous, Maloya là-bas, c'était un reportage d'Antoine Chao. Merci à Stéphane Grondin, Patrice Guichard, Fanny Précourt, Franck David, Tristan Romuald et toute l'équipe du Festival Comédie.
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
Je suis votre auditeur.
Ok.
Je vous écoute.
Fermez les yeux. Enfin, vous n'êtes pas obligé.
Et voici, comme tous les jours, le moment de la fiction radiophonique, où nous découvrons le travail du collectif Faune Radio.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos émissions sur comedy.re, où elles sont podcastables.
Ça va ? Véhicule de Paul Poulsen.
Paul ?
Boîte noire, le 6 mai 2034.
Ça va ?
16h18.
Tu planes, tu regardes même plus la route. Ça va ?
Ça va.
Tu peux me dire ce qu'on fait là ? On va où exactement ? Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe qu'on va prendre l'air, Sophia.
Tu as vu ta tête ? Tu stresses comme si tu avais tué quelqu'un.
T'as tué des gens, papa ?
Moins que toi, Kevin. Et enlève ton Oculus, tu vas encore vomir.
Les 4 prochaines sorties du périphérique sont actuellement inaccessibles. Prochaine sortie disponible, cœur de ville.
J'en viens du cœur de ville. Je veux sortir, capitaine. Trouve une alternative.
Il n'y a pas d'alternative. La seule sortie disponible est cœur de ville.
Change ton IA, connard !
Capitaine, qu'est-ce qui se passe exactement ?
Je vous connecte au réseau d'informations pertinents.
La gouvernance se refuse pour l'instant à parler de tragédie. La jeune fille aurait été retrouvée dans une mare de sang au beau milieu d'une rue privilège.
Prie-moi le flux par fraîcheur.
Temps réel.
Le trafic est bloqué sur toutes les voies rapides de la ville en raison de manifestations spontanées et violentes.
Il y a 2 minutes.
Une jeune fille de 24 ans, du nom de Liv Bekti, aurait été interceptée par un drone hier à 8h16 dans la rue Martin Luther King. Disposant d'un forfait standard, son statut ne lui donnait normalement pas accès à cette rue labellisée premium.
Il y a 4 minutes, Tara Blog.
Elle est coupée par une rue interdite. N'importe qui aurait fait ça à sa place. Elle allait accoucher, vous vouliez qu'elle fasse quoi? Un détour de 3 km?
Il y a 7 minutes.
Les circonstances du drame sont encore inconnues, mais il semblerait qu'un drone ait attaqué Liv Bekti à l'arme sonique, causant une hémorragie interne et un accouchement prématuré. Le bébé est sauf et son père est à son chevet.
Il y a 8 minutes.
La police réfute toute accusation de bavure, mais selon nos premières informations, le drone qui a tiré serait un prototype israélien utilisé à Gaza pour débusquer les attentats suicides.
Flash temps réel.
La police recherche activement l'unique témoin de l'accident. Il s'agirait d'un homme âgé d'une 40aine d'années qui aurait filmé l'attaque du drone au Bright Phone.
Barrage de police à 800 mètres. Veuillez préparer vos documents, citoyens. Merci par avance de votre coopération qui favorisera la fluidité du trafic.
Qu'est-ce que tu fais, Paul ?
Sophia, tu prends le volant. Je n'ai jamais été dans cette voiture. Vous m'avez bien compris ? Rentrez à la maison.
Papa, où tu vas ?
Je peux pas vous expliquer, là. Je dois absolument disparaître un moment. Paniquez pas, c'est rien.
Barrage de police à 800 mètres. Veuillez préparer vos documents, citoyens. Barrage de police à 800 mètres. Veuillez préparer vos documents, citoyens. Barrage de police à 800 mètres.
Bright Phone de Paul Poulsen. 6 mai 2034.
Séquence vidéo enregistrée aujourd'hui, 8h16, 18 rue Martin Luther King.
Mademoiselle Bekti, votre statut ne vous permet malheureusement pas de circuler dans cette rue. Nous vous demandons de rebrousser chemin et d'emprunter les itinéraires publics. Ceci est une première sommation.
Je vous demande de soulever votre robe pour vérification. Votre profil potentialise un attentat à la ceinture piégée.
J'ai perdu les os! Laissez-moi passer!
Merde!
Nouveau message furtif. Votre opérateur ne peut pas authentifier ce...
Décryptage!
Paul, tu es où? On s'inquiète vraiment pour toi. Ici, c'est les maths, je te jure. Rappelle-nous dès que tu peux.
Qui est là ?
C'était une fiction radiophonique présentée par Faune Radio. Écoutez les épisodes suivants sur leur site internet faune.org. Mais avant de se quitter, on retourne dans la cour du lycée Pierre Poivre avec nos envoyés très spéciaux.
Bonjour, c'est Pierre.
Mélissa.
Mélissa.
Mélodie.
Marion.
Lindsay.
Violetta.
Et Mathieu.
En direct du lycée Pierre Poivre dans la cour.
On va faire un micro-trottoir et on va demander aux gens de nous parler d'un artiste qui leur plaît, un artiste engagé qui leur plaît et qui les inspire et pourquoi.
Mais pendant qu'ils rentrent, travail 8 et 7 pour préparer Lila. Pas tellement dormi, donc il lève si le mauvais pied il est.
Kerry James, Youssoupha, Sniper, Lisa Souhaite de la rue.
Tupac, parce que c'est la légende du rap. Et que. Même s'il est mort, et ben, c'est toujours une légende pour nous tous. Amen.
Booba, il dénonce la haine des jeunes dans les quartiers. Et voilà.
Écoute, ça donne travail, elle gagne le fou rire. Miss indépendante veut faire sa chabine. Même si la semaine est stressante, elle voudrait bien que le temps y passe vite, man.
Soprano, voilà, mélange de nations, voilà. Et pas de nos racistes. Voilà.
Bonjour, est-ce que tu peux nous parler d'un artiste engagé que tu aimes bien?
Bob Marley. Qui est pour la liberté.
Bob Marley.
Bob Marley, parce qu'il chante contre le racisme.
Dans ses chansons, il est engagé contre le racisme.
Merci.
Au revoir.
Tyro.
Il fait passer un bon message. Qui est
sur
de...
les femmes aussi. La
oui,
la sur les femmes. Là.
Et qu'en gros, bah, on est tous des cons de se battre.
John Lennon, parce qu'il a fait beaucoup de chansons contre tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Vous voyez. Comme par exemple, ouais, Imagine. Il parle de la paix dans le monde et il dit que tout le monde devrait être sur un même pied d'égalité et qu'il devrait avoir la paix au lieu des guerres, etc.
Sting de The Police, le chanteur de Police, qui a fait par exemple des chansons par rapport à la guerre froide. Sont pas la guerre froide pour la paix, pour véhiculer la paix surtout. Hein, il prenait pas parti d'un clan ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre, et voilà, bah, surtout Sting en fait. Hein.
Corneille, parce qu'il chante sur les génocides qui s'est passé dans son pays. Sur sa famille, et il a perdu toute sa famille dans le génocide.
Renaud.
Pourquoi ?
Bah, parce que je l'aime bien, et ses textes sont forts, et c'est proche du communisme et tout, et j'aime bien ça.
Manu Chao, parce que justement, il, à travers ses chansons et également son engagement auprès de l'Amérique du Sud, il montre que, aussi bien dans ses textes que dans ses actions, qu'il y a un véritable engagement citoyen.
Les enfoirés, ils aident beaucoup de personnes grâce à leurs chansons. L'argent qu'ils reçoivent sont pour une association, les Restos du Cœur, il me semble. Et je trouve ça super bien, une bonne idée.
Est-ce qu'on peut te poser une question ?
Oui, allez-y.
Est-ce que tu peux nous parler d'un artiste engagé que tu aimes bien ?
Un artiste engagé que j'aime bien ? Bah attends, laisse-moi réfléchir. Il faut que ce soit un artiste peintre, un artiste sculpteur.
Musical.
Oh, musical engagé, j'aime bien Jean-Jacques Goldman, moi.
Pourquoi tu penses qu'il est engagé ? C'est un artiste engagé.
Bah parce qu'il participe au Resto du Cœur, déjà. Puis en plus, il donne à plein d'associations son argent.
Merci.
Et la CPE, même Carbillet. Alors, oui, donc il s'agit de Jean-Jacques Goldman. Uniquement et simplement parce que c'est un des cofondateurs avec Coluche des Restos du Cœur, tout simplement. Et que cet homme-là a une philosophie de la vie et un principe qui est de partager et de donner. D'autant plus que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui le savent, mais c'est un des rares chanteurs, compositeurs, artistes qui paye ses impôts et qui déclare ses frais au fisc. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument citer Jean-Jacques Goldman.
Alors moi j'aime bien un chanteur qui est spécial, hein, qui existe depuis les années 90, parce que je suis un peu plus vieux que vous, d'accord. Mais vous avez certainement dû entendre ses sons et ses morceaux musicaux à la radio. Il s'appelle Jack Johnson, c'est un ancien surfeur pro. Et du coup, il a eu une grosse blessure. Son papa, c'était un grand surfeur aussi. Et avec sa grosse blessure physique, il s'est mis à faire de la musique. Et au fur et à mesure, ça a vraiment, vraiment bien marché. Et puis en fait, tout son débat et tous ces sujets et toutes ces thématiques, c'est autour de la protection de l'environnement, l'utilité de recycler, l'utilité de protéger la nature, l'utilité de respecter l'environnement, l'utilité de sensibiliser tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, tous. Donc du coup, ces chansons sont hallucinantes, sont hyper bien rythmées. Après, il faut aimer ce genre de musique. Mais Jack Johnson, ouais, c'est un chanteur et un artiste qui est engagé à écouter, à découvrir. Et il y a tellement de morceaux différents qu'à mon avis, vous allez trouver au moins un morceau qui va vous plaire. Voilà.
Bah essayez, on peut mettre un morceau si vous voulez.
Mélange de nations, nos racistes.
Contre le racisme.
Contre le racisme.
Sur les femmes aussi, la vie là, sur les femmes. Là.
Pour la paix, pour véhiculer la paix surtout. Hein.
Et qu'en gros, on est tous des cons de se battre.
La liberté. Ils aident beaucoup de personnes grâce à leurs chansons.
Ils disent que tout le monde devrait être sur un même pied d'égalité.
Et... une philosophie de la vie et un principe qui est de partager et de donner.
L'utilité de recycler, l'utilité de protéger la nature, l'utilité de respecter l'environnement, l'utilité de sensibiliser tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, tous.
Il y a un véritable engagement citoyen.
C'est la fin de notre émission. Retrouvez-nous demain à la même heure. N'oubliez pas, hein. Merci à tous nos auditeurs pour ce super moment passé en votre compagnie. On remercie la technique Morgane, Tristan et Antoine Chao, Chloé, Julie et Marie.
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.